nous sommes partis en vacances, mais pour vous accompagner, nous vous avons concocté des rediffusions. Bonne émission.
C'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, près de la moitié de l'humanité vit désormais confinée, en retraite forcée de la société. Une situation inédite qui nous permet de réaliser comment fonctionne notre vie quotidienne. Cela dépend des pays, bien sûr, des revenus et des habitudes de chacun. Mais globalement, le mode de vie urbain montre ses limites. Quand nous sommes confinés, tout devient compliqué car nous n'avons aucune autonomie. Eau, alimentation, énergie, nous sommes habitués à satisfaire nos besoins primaires en achetant. C'est face à ce constat que de plus en plus de personnes décident de changer de vie, de prendre justement leur autonomie, un choix qui prend une ampleur inédite sur tous les continents et qui, en ces temps de confinement, est inspirant.
C'est pas du vent sur RFI.
Tu t'es installé ici, t'avais quel âge ?
J'avais quel âge ? J'avais donc 25 ans.
25 ans ? Comment on prend la décision de venir s'installer là et pour y faire quoi et...
Écoute, j'ai eu un vécu qui fait que j'ai eu ce déclic là même avant. À partir de 15 ans, j'ai commencé vraiment à me poser beaucoup, un tas de questions. En fait, de me demander comment faire pour essayer de ne pas avoir un impact négatif sur la nature et essayer que la nature ne se fasse pas trop maltraiter. Et du coup, ben, c'est ce que j'essaye de faire à mon propre échelle. Et chacun est sur son chemin et ben, moi sur ce chemin là.
Ta démarche à toi, c'est avant de changer le monde, j'essaye de me changer moi et d'être cohérente finalement, c'est ça ?
Exactement. La cohérence, c'est d'abord en soi qu'on la trouve. Et c'est avec nos achats qu'on fait qu'on cautionne ceci ou cela. Ou c'est avec notre manière de nous comporter qu'on cautionne ceci ou cela, tel ou tel comportement, telle norme sociale, etc. etc. C'est, nous sommes la clé et nous sommes puissants. À terme, je pense arriver à être beaucoup plus autonome et à être en réseau avec d'autres personnes qui veulent ça, et indépendant finalement de l'État ou des lobbies, des supermarchés, etc.
Bonjour Muriel Barra. Cela fait plus de 15 ans que vous produisez des documentaires sur les changements de mentalité. Vous venez de sortir en DVD une série de 4 films intitulée « Un autre chemin à la découverte des choix de vie en autonomie ». Alors comme tous les invités de cette émission, je vous remercie de jouer le jeu de la radio virtuelle hein, puisque nous sommes tous par téléphone. Et Muriel Thibault, que nous venons d'entendre, fait partie de vos rencontres. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire cette série ?
Ça fait 16 ans que j'essaye de mettre en avant des récits, des nouvelles histoires en fait, qui nous donnent à réfléchir et qui nous proposent un avenir plus soutenable et plus enviable. Donc dans cette quête, il y a quelques années, j'ai souhaité, dans une démarche on va dire un petit peu égoïste et personnelle, moi-même aller vivre avec des gens qui pour moi incarnent en fait au quotidien ce fameux changement de paradigme. Et j'ai souhaité aller rencontrer ces gens à la fois en France et puis à l'étranger. Je savais pas très bien dans quoi j'allais me lancer et puis je me suis rendu compte très vite qu'en fait ce mode de vie plus résilient était tout simplement l'application de mode de vie plus proche de l'autonomie, des gens qui avaient repris en main leur lien avec la nature, l'énergie, l'alimentation, beaucoup d'autres formes d'habitat, d'éducation. Donc c'était vraiment une démarche très personnelle à la base qui m'a beaucoup moi inspirée et qui, par le choix de la télévision et Ushuaïa TV que je remercie, a permis d'en inspirer d'autres. Voilà.
Alors parmi les lieux visités, il y a le éco-hameau du Ruisseau près de Châteaubriant dans l'ouest de la France. C'est là que vous vivez depuis plus de 40 ans. Patrick Baronnet, bonjour.
Oui, bonjour.
Patrick, vous êtes souvent présenté comme le précurseur de l'autonomie en France. Vous ne payez plus un centime d'eau depuis 40 ans, ni un centime d'électricité depuis 20 ans. C'est quoi l'autonomie pour vous ?
L'autonomie, c'est d'être responsable de sa vie. C'est de prendre en charge un maximum de choses pour ne pas peser sur les autres. C'est une démarche que je dirais humblement altruiste qui pourrait être une proposition d'un changement de société où chacun pourrait assumer un certain nombre de choses localement avec beaucoup de passion et d'intérêt plutôt que d'avoir les biens de consommation à partir d'un salaire. Et donc depuis 1976, on a commencé cette démarche après avoir quitté Paris. Et donc, ça fait 40 ans qu'on vit de cette manière-là. Et j'avoue que si c'est à refaire, on le referait.
Alors Patrick, vous avez été, je le disais, dans les premiers, mais c'est une démarche qui prend de l'ampleur. Bonjour Mathieu Labonne.
Oui, bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes co-directeur du mouvement des Colibris et président de la coopérative des Oasis qui accompagne des personnes justement qui se lancent dans cette démarche. Et il y en a de plus en plus.
Oui, il y a beaucoup de lieux qui sont en création. Aujourd'hui, nous, on recense près de 1000 lieux en France dans ce réseau des Oasis des habitats participatifs. Donc, c'est un réseau qui grandit très vite. Il y a des lieux qui sont un peu anciens, comme la Maison Autonome et les Quamo du Ruisseau de Patrick Baronnet, mais aussi beaucoup de lieux qui se créent depuis moins de 5 ans. On a en moyenne une bonne centaine de nouveaux projets par an, de tailles diverses. Certains qui sont plus tournés vers l'autonomie, effectivement, et d'autres un peu moins. Mais en tout cas, il y a un vrai mouvement de société pour retrouver cette solidarité et cette écologie à une échelle locale.
Alors, preuve que ce mouvement prend de l'ampleur, hein, il existe même un réseau international, le Global Eco Village Network. Alors, bonjour Ousmane Pamé.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour.
Alors, vous êtes au Sénégal, vous êtes responsable de la région Afrique de l'Ouest pour ce réseau. Alors, en Afrique, la notion d'éco-village, d'éco-hameau, d'autonomie a une autre signification. Il ne s'agit pas de quitter la ville pour aller habiter en zone rurale, c'est plutôt un autre rapport au développement, à l'argent.
Tout à fait, Anne-Cécile, parce que... En Afrique, déjà, la notion de communauté est très forte. Nous vivons donc, que ce soit en ville d'ailleurs ou dans les villages, nous avons donc des liens communautaires très forts. Alors, ce que nous cherchons à faire, c'est vraiment d'améliorer un peu le niveau de vie donc des populations, parce qu'aujourd'hui, nous vivons aussi sous l'emprise d'un système global totalitaire qui dépouille nos communautés donc d'imagination, d'initiative. C'est un processus appauvrissant qui nous impose à tous un menu unique, une seule façon de voir et donc d'être dans le monde. Et nous sommes en ce moment donc dans le réseau donc des éco-villages, engagés donc dans une logique de rupture avec cette logique commerçante plus azimut qui concentre de plus en plus donc les richesses entre une poignée de mains. Tout cela crée un désordre, beaucoup de souffrance et de misère. Et donc, nous cherchons à redresser un peu ce monde, un peu qui est une sorte de pyramide à l'envers, pour remettre les communautés donc rurales du Sahel en marche et travailler pour régénérer les écosystèmes, pour créer de l'abondance. Voilà, on nous a volé notre sens donc du bien-être. Je pense que c'est à nous, communautés donc de base, de travailler pour retrouver notre autonomie en tout et ne pas suivre un mouvement qui est destructeur donc de l'environnement et de nos modes de vie millénaires.
Oui, c'est une forme de résistance. Alors Muriel Barra, toutes les personnes que vous avez rencontrées pour votre série Un autre chemin parlent d'un déclic, d'une prise de conscience. Alors je vous propose d'écouter les témoignages de Cécile et de Terra qui vivent dans l'éco-hameau du ruisseau près de chez vous, enfin avec vous plus précisément, Patrick Baronnet.
Le déclencheur de changer vraiment de mode de vie, ça a été le fait de se rendre compte qu'on rentrait le soir, qu'on n'avait plus de patience l'un pour l'autre, ni pour nos enfants. Donc on était payés pour éduquer les enfants des autres, mais nous, on donnait nos enfants à d'autres qu'on payait pour qu'ils les éduquent, en fait, quand même les trois quarts de la journée. Hein. Oui. C'est quand même ça qui se passe, quoi.
Et à un moment, tu dis, ça n'a plus de sens.
Ben non, ça n'avait pas de sens. Je le dis souvent, ça, mais je l'aime bien, parce que je payais une maison dans laquelle j'étais pas. Parce qu'on travaillait quand même beaucoup, on avait des amplitudes horaires de 12 heures. Et des fois, on a rentré chez nous, mais des fois pas. Donc c'était fou, quoi. Enfin, tu vois, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi cette vie? Puis non, on profitait pas l'un de l'autre, on profitait pas de la vie. On n'avait plus de sous, on payait, on travaillait, on était à découvert, et on pouvait partir, on pouvait presque pas partir en vacances. Donc tu te dis, mais c'est quoi ce monde? Mais à quoi ça sert tout ça? C'est quoi ce truc, quoi? Donc nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, moi j'ai pas envie de vivre ça. Non, j'ai pas envie. Et là, on a commencé à faire des recherches. Ben oui, il existe d'autres modes de vie, il y a d'autres façons, il y a d'autres personnes qui pensent les mêmes choses et qui font des expériences aussi.
Et je vois qu'en fait, dans le béton, entre toutes les peintures, les colles, et finalement, je lis carrément l'information comme quoi l'air intérieur de nos maisons est plus pollué que l'air extérieur. Un des domaines aussi qui produit le plus de déchets, c'est le domaine de la construction. Donc si en plus je participe, moi, en tant qu'architecte, à déjà construire des maisons qui sont polluées à l'intérieur, mais en plus à polluer aussi l'ensemble de l'environnement par la construction, ben ça m'a posé question. Voilà. Je commence à utiliser de la peinture écologique, à m'intéresser aux énergies alternatives. Et surtout, moi, à ce moment-là, je travaillais à Noirmoutier et je voyais les sommes astronomiques qu'on dépense pour construire des maisons. Et quelque part, une idée qui germe, que moi, j'ai des besoins qui sont assez simples, en fait. Et que je rêverais d'un petit endroit, une petite maison, un truc simple, quoi, la simplicité. Et du coup, je participe à des chantiers participatifs d'autoconstructeurs. Et là, belle leçon d'humilité, parce que moi qui sors d'une école d'architecture, qui ai travaillé en cabinet, je m'aperçois que j'ai tout à réapprendre.
Tout à réapprendre, c'est un peu le principe hein, quand on décide de vivre en autonomie. Patrick Baronnet, évidemment, vous connaissez bien hein, Cécile et Théra qui vivent avec vous dans votre hameau. Vous partagez ce qu'elles viennent de dire ?
Oui, bien sûr, je partage totalement ce qu'elle vient de dire, d'autant que Théra habite dans une maison qu'on a fabriquée pratiquement de toutes pièces sur place. Et après avoir fait une maison à 25 000 euros de matériaux, je trouvais que c'était encore trop cher. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ce qu'on a appelé, nous, l'habitaire. C'est une maison entièrement en paille porteuse, c'est-à-dire que c'est le cylindre de paille qui porte la toiture. Et donc, c'est une maison à 10 000 euros, extrêmement isolée, extrêmement confortable. Et donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que disait Théra, c'est que nous sommes beaucoup plus capables que nous le croyons d'inventer notre vie et d'avoir une certaine maîtrise de l'ensemble de nos besoins. Mais simplement, le système marchand s'est approprié à compliquer techniquement les choses. Et donc, on a l'impression qu'on n'est bon qu'à faire le travail qu'on va faire pendant 40 ans. Alors que ce qui est passionnant en plus, c'est de maîtriser son alimentation, sa nourriture, son énergie, ses relations humaines, etc. Et donc, l'autonomie, pour moi, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie.
Alors Mathieu Labonne, est-ce que ça implique quand même un minimum de bagages financiers, de bagages intellectuels pour se lancer ?
Alors oui, donc là effectivement l'exemple des Coëmaux du Ruisseau est un exemple très fort de ce qu'on peut faire avec peu de moyens hein, et avec beaucoup de créativité. Après, dans les lieux qui se créent aujourd'hui, il y a effectivement une grande diversité. Faut savoir que la plupart des lieux qui se créent aujourd'hui sont des lieux collectifs. Nous, on observe quand même beaucoup de lieux qui se créent entre 6 et 12 familles, qui est une taille qui permet effectivement de mutualiser beaucoup de choses, hein, parce que c'est un des enjeux de ces éco-hameaux, c'est pas uniquement l'autonomie, c'est aussi la mutualisation et le partage. Ça permet d'accéder à un certain confort, un certain nombre de services, sans avoir à acheter soi-même beaucoup de choses. Et que par contre, pour monter ces lieux collectifs, effectivement, il faut des compétences, il faut être souvent accompagné, que ce soit sur des questions juridiques, sur aussi l'accès à du financement, parce que les banques financent parfois mal. C'est pour ça qu'on a créé une coopérative citoyenne qui s'appelle la coopérative Oasis, qui permet de financer ces projets citoyens. Et puis, il y a aussi évidemment des compétences plutôt techniques, architecturales, de promotion immobilière. Et voilà, nous, notre démarche, c'est effectivement de ne pas faire à la place des gens. Je pense que les gens ont beaucoup de compétences pour monter en compétences et en puissance dans ces projets. Donc, c'est plutôt effectivement de faire ce qu'on appelle de l'empowerment, c'est-à-dire de donner du pouvoir d'agir aux gens en les formant, en les accompagnant. Et donc, il ne faut pas hésiter à se lancer dans ce genre de projet et en même temps savoir qu'il y a pas mal de personnes compétentes sur différentes thématiques qui sont prêtes à aider et que c'est souvent nécessaire d'être quand même soutenu.
Ousmane Pamé, comment est-ce que vous réagissez, vu du Sénégal, par rapport à ce que disait Patrick Baronnet, de voir que, voilà, en France, on se remet à construire des maisons en terre et en paille ?
Tout à fait, parce que ici, par exemple, dans les grandes villes africaines, notamment Dakar, les gens sont en train de construire, en fait, des véritables prisons en fer et en béton, et c'est extrêmement compliqué. Et nous sommes en train donc de laisser progressivement toutes ces technologies architecturales traditionnelles qui sont beaucoup plus adaptées à nos réalités donc climatiques. Parce que si vous allez par exemple dans le nord du Sénégal, nous avons donc des maisons en banco qui sont plus adaptées parce que quand il fait chaud dehors, il fait un peu plus frais. Peut-être il y a même une dizaine de degrés de différence et inversement aussi.
Oui, mais ça fait pauvre, en fait, d'avoir une maison en terre aujourd'hui, non ?
Mais justement parce que en fait on a réussi à créer dans l'esprit des populations que c'est beaucoup plus prestigieux d'avoir une maison en béton, alors que ça fait marcher peut-être le commerce d'autres personnes. Et donc je pense qu'il faut un retour à ça. Peut-être que nous pouvons l'améliorer en utilisant donc des techniques de voûte nubienne, etc. On peut faire de très beaux bâtiments, mais qui ne coûte pas cher, avec des matériaux locaux, une technologie locale, et donc qui fait chic, qui fait moderne, sans particulièrement donc, mettre l'accent sur le misérabilisme.
Restez sur RFI, on fait une pause musicale ensemble pour se détendre et on se retrouve juste après.
Grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons des personnes de plus en plus nombreuses qui ont décidé de s'émanciper de la société de consommation et de repenser leur rapport à l'habitat, à l'alimentation, à l'énergie ou à l'eau en étant plus autonomes. Une démarche inspirante en cette période où plus de la moitié de l'humanité vit confinée. Alors Muriel Barra, pour votre série Un autre chemin, vous êtes allée jusqu'au Québec où ce choix de l'autonomie est possible même par moins 20 degrés, comme nous l'expliquent Pierre et Patrick qui vivent au Éco-hameau de la baie.
Notre projet est né au début des années 90 avec cette idée-là de créer un laboratoire nordique. Si on pouvait réussir ici à trouver des solutions d'un monde qui n'est pas basé sur les ressources fossiles, mais basé sur les ressources renouvelables, on ferait la démonstration, en fait, qu'ailleurs, où c'est plus facile qu'ici, on y arriverait plus facilement.
Et si ça marche ici, ça marchera partout.
Si ça marche ici, ça marchera partout, forcément.
Est-ce que les gens ont une idée, est-ce qu'ils ont réfléchi à qu'est-ce que c'est qui va arriver demain matin au Québec s'il n'y a plus de pétrole? Tout fonctionne. Les épiceries, tout est basé sur le pétrole. Moi, je trouve ça aberrant qu'on... On n'a aucune résilience dans plusieurs municipalités, dans plusieurs villes, face à ça, quand on sait que c'est une évidence qui s'en vient. on blâme les baby boomers pour tout, tu sais. On dit qu'ils ont détruit la planète, ils ont abusé de l'essence, mais nous autres, de notre côté, si on ne fait pas les démarches qu'il y a à faire pour s'assurer justement que les générations à venir ils ont quelque chose devant eux autres, bien, on est aussi coupable que les générations passées. Hein. Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème.
Et oui, si on ne fait pas partie de la solution, on fait partie du problème. Patrick Baronnet, j'imagine que c'est aussi votre conviction.
Nous, il y a 40 ans, on a décidé que envers et contre tous, et c'était vraiment le cas à cette époque-là, puisque quitter la ville, quitter Paris, c'était une folie. Aujourd'hui, je pense que 40 ans après, il y a beaucoup de gens qui la preuve en est, c'est qu'il y a 17% de gens qui, en ce moment, ont quitté Paris. Donc, il faut avoir une audace et une conviction personnelle et avoir une grande confiance en soi. C'est ça qui fait qu'on arrive à trouver les moyens d'être extrêmement créatif. Mais si vous voulez, la question que je me pose, c'est que quand nous, on est arrivés il y a 40 ans, eh bien, sur la commune de Moidon-la-Rivière, la moyenne des surfaces était déjà de 40 hectares. Aujourd'hui, c'est de 80 hectares. Et ma question que je voudrais peut-être soumettre à tout le monde, c'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que si les personnes aujourd'hui voulaient faire comme moi, ça devient de plus en plus compliqué parce que pour trouver de la terre, du terrain et une maison, c'est très compliqué. Et donc là, on a affaire à quelque chose qui nous dépasse un peu. Et donc, c'est un peu la question que je pose à tout le monde là.
Alors Mathieu Labonne, je rappelle que vous êtes le président de la coopérative des Oasis qui accompagne justement des personnes qui se lancent dans cette démarche. Qu'est-ce que vous répondez à Patrick ?
Alors effectivement, l'accès au foncier, notamment dans des zones assez tendues, notamment dans les zones plutôt périurbaines, est compliqué. Après, aujourd'hui, la question de l'autonomie, elle pose aussi la question du collectif. Parce qu'on peut avoir cet imaginaire d'une personne autonome tout seul, ce qui, en dehors de quelques cas assez exemplaires et assez rares, la question, elle passe souvent justement par retrouver le sens du collectif. Et ce collectif, il permet non seulement, d'une part, de mutualiser, de partager, donc du coup, de mettre en place des choses beaucoup plus ambitieuses, mais il permet aussi d'accéder à des choses auxquelles on n'a pas forcément accès tout seul, et notamment à des biens immobiliers, à de l'emprunt, à du financement. Donc aujourd'hui, nous, on voit notamment en milieu rural beaucoup de lieux qui sont à acheter. Notamment, il y a aussi en France beaucoup de patrimoine ancien, des petits châteaux, des grandes fermes fortifiées, des grands domaines, qui ne sont plus accessibles à des familles en dehors de millionnaires. Donc, on a de plus en plus de patrimoine ancien à rénover, qui sont pris en charge par des collectifs. Nous, on accompagne beaucoup de projets. Là, par exemple, il y a une semaine, il y a un groupe de 16 jeunes qui habitent en colocation en banlieue parisienne, qui viennent d'acheter un grand moulin qui a plusieurs siècles, avec en plus une bâtisse de 1000 m² déjà habitable. Et donc, ils ont quitté la vie francilienne, l'île de France, pour rénover ce patrimoine, bien sûr des activités économiques aussi, et développer un mode de vie plus autonome.
Donc, et ils ont choisi leur moment.
Voilà, ils ont eu de la chance. Ils ont, en l'occurrence, acheté ce bien 3 jours avant le début du confinement. Et du coup, ils se retrouvent confinés à 16 dedans et à avancer beaucoup leurs projets, même beaucoup plus vite que prévu, de par ce confinement forcé.
Alors vous me disiez en préparant cette émission que les projets que vous voyez le plus, en tout cas au sein de la coopérative des Oasis, c'est des familles qui se regroupent, voire une dizaine de familles, parce qu'on est plus fort à plusieurs.
Oui, ça, nous, c'est vraiment le message qu'on porte. C'est-à-dire que la question du changement de mode de vie écologique, elle est complètement corrélée au fait de réapprendre à faire ensemble, de réapprendre à vivre ensemble et à partager. Moi, je trouve que l'autonomie, encore une fois, à l'échelle individuelle, c'est quelque chose de compliqué. Et par exemple, typiquement, si on a un grand potager, comment fait-on en été si on veut aller voir la famille ou partir en vacances pour s'en occuper? La question, elle se résout beaucoup plus facilement quand on est plusieurs, quand elle demande de s'organiser. Et cette taille de 10 familles, elle est intéressante parce que dans ces chiffres-là, un peu un optimum entre une taille qui permet de mutualiser et en même temps une gouvernance qui reste facile. Donc, c'est vrai que nous, on promeut beaucoup par rapport justement au Global Eco Village Network dont Ousmane Pamé fait partie. En France, on a très peu de grands éco-villages, on a beaucoup de petits projets comme ça entre 6 et 12 familles qui fleurissent et qui parfois marchent très bien, voilà, et peuvent mutualiser pas mal de choses.
Alors on l'a bien compris, ça peut être une démarche collective, mais c'est aussi avant tout une démarche individuelle qui touche tous les milieux et tous les profils, comme le démontrent ces quelques témoignages recueillis par Muriel Barra auprès des stagiaires qui sont venus se former dans votre éco-hameau, Patrick Baronnet.
Je travaille dans la finance d'entreprise, donc ont des choses qui sont pas très... voilà quoi, qui font pas tellement de bien à la Terre. Mais je suis en train de converger vers autre chose. C'est l'aboutissement d'un cheminement qui dure depuis plusieurs années vers une reconnexion à l'essentiel et quand même une grande quête de réappropriation de nos modes de vie et l'autonomie en fait partie, enfin elle est même primordiale quoi. C'est la condition de la liberté.
T'arrives, t'as deux diplômes en faisant 3 ans à la place de 2 en master, donc ça te fait 6 ans d'études. Et puis après tu rentres tes cadres, et puis tu gères des équipes, puis tu iras sûrement de boîte en boîte pour. Et ça, ça me va pas du tout. Quand on voit là autant la misère dans le monde, bah c'est. Ça donne pas envie de continuer comme ça. Et moi j'ai envie de changer.
On est sincèrement convaincu que la qualité de vie rejoint la sobriété, quoi. Des choses qu'on peut dire quand on est. À l'apéro avec des copains, c'est pas normal, tu te rends compte, c'est scandaleux, tout ça, oui, oui. Et puis finalement, voilà, il se passe rien, et on se dit que les politiques, c'est tous les mêmes, qu'ils font rien, que machin, bah oui, oui, enfin, la critique est facile, et puis en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait un champ d'action, un champ de possible, et à l'infini, quoi.
Alors Patrick Baronnet, est-ce que ces témoignages sont emblématiques des 50 000 personnes que vous avez formées en 40 ans? Parce que vous voyez des individus dans votre éco-hameau.
Je pense qu'on a une grande variété de personnes qui viennent nous voir. Un des symptômes récurrents que l'on trouve, c'est le burn-out. C'est-à-dire que les gens, même surtout peut-être ceux qui ne sont pas préparés dans des fonctions comme... des médecins, des notaires, des avocats, des professions libérales, etc. Ce sont des gens qui, d'un seul coup, réalisent que vers 40 ou 50 ans, ils se posent la question « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et souvent, c'est le corps qui lâche, tellement ils sont à côté de leurs aspirations fondamentales. Et beaucoup de ces gens, d'ailleurs, rêvent d'une chose, c'est de faire un jardin, c'est d'être artisan, d'être menuisier, d'être boulanger, etc. Donc, il y a une espèce de mouvement spontané où les gens, d'un seul coup, vu la situation actuelle, un petit peu extrême, réalisent qu'ils ont perdu leur vie et ils veulent revenir dans quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est vrai, bon, il y a la figure emblématique d'un hameau, d'être à plusieurs et de vivre et de vivre d'une manière plus relationnelle et plus intelligente. Je voulais dire aussi que un éco-hameau, quelle que soit son ampleur, quand un éco-hameau se trouve quelque part en campagne ou ailleurs, eh bien, il y a une espèce de rayonnement, une influence qui est difficile à déterminer. Mais je parle pour nous. C'est vrai qu'à partir du moment où on a existé, on a vu fleurir pas mal d'organisations alternatives autour, à commencer par une COP bio qui, il y a 20 ans, était complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est une COP qui rassemble beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'émergences spontanées par rapport aux maraîchers. Il s'agit, à travers les éco-hameaux, d'irradier une autre manière de vivre et de penser. Et je pense que c'est assez efficace.
Mathieu Labonne, c'est ce que vous constatez sur l'ensemble des territoires, hein?
Oui. Ben, nous, ce qui nous intéresse dans la démarche des oasis, c'est d'une part effectivement d'offrir ces lieux de vie à des personnes. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a à peu près 1000 lieux en France. Donc voilà, en moyenne, un peu moins de 10 familles par lieu. Mais ça veut dire qu'on touche que, disons, 20 000 près personnes en France, ce qui est déjà bien, mais ce qui est très petit à l'échelle de la population nationale. Mais ce qui nous intéresse, nous aussi, beaucoup, c'est en quoi ces lieux catalysent des changements à l'échelle d'un territoire. Et ça, c'est ce qu'on observe, nous. Très souvent, dans des communes où ces lieux sont installés, alors ça prend parfois 5 ou 10 ans, mais les territoires se transforment parce que les habitants du territoire découvrent de nouvelles façons de faire, sont inspirés par ces voisins qui font un peu autrement et qui recréent souvent aussi du lien social et de la convivialité, hein, parce que les oasis, ce sont souvent des lieux joyeux, des lieux où les gens se rencontrent, font la fête, tissent des liens, de la solidarité. Donc on a, par exemple, moi je sais où j'habite, de voir un éco-village se construire dans un petit village de Beau, un lieu en France qui est quand même très marqué par l'agriculture industrielle, et de voir que maintenant, il y a une épicerie bio qui s'est installée, un maraîcher bio qui s'est installé, de voir qu'aux élections municipales, l'écologie était quand même beaucoup plus mis au centre des débats que ça l'était il y a quelques années. Voilà. On voit que dans beaucoup d'endroits, sur une période de 5 à 10 ans, ces lieux arrivent à faire changer beaucoup de choses au-delà de leurs habitants. Parce que c'est aussi des lieux où on se forme, c'est des lieux qui sont ouverts, c'est des lieux où on transmet des techniques de savoir-faire ou de savoir-être. Et donc, voilà, ces lieux, ils ont des rôles à jouer pour la transition plus globale. Je ne pense pas que tout le monde peut vivre dans ces lieux, parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde aujourd'hui, ce mode de vie. Par contre, ces lieux, ils sont très utiles pour tout le monde.
Alors, choisir de vivre en autonomie, savoir produire son électricité et son alimentation, ne pas dépendre de la société de consommation, un choix de vie qui se multiplie, on en parle sur RFI. Restez avec nous, on se retrouve juste après une pause musicale.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. For me, only for me. Come to me now.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des personnes de plus en plus nombreuses qui ont décidé de s'émanciper de la société de consommation et de repenser leur rapport à l'habitat, à l'alimentation, à l'énergie ou à l'eau en étant plus autonomes. Une démarche inspirante en cette période où plus de la moitié de l'humanité vit confinée. Et Muriel Barra, donc je rappelle que vous avez créé une série de documentaires qui aujourd'hui sort en DVD qui s'appelle Un autre chemin. Vous avez voulu aller plus loin dans la démarche, vous êtes allée à la rencontre d'une personne, Ramin Farangi, qui est le fondateur de l'école dynamique, en partant du principe que l'apprentissage de l'autonomie, ça pouvait se faire dès l'enfance. Je vous propose de l'écouter et on en parle après.
Alors moi, j'ai grandi avec une éducation tout à fait conventionnelle. J'étais un heureux premier de la classe, valorisé par le système. J'ai fait l'école centrale Paris et l'université de Cornell. J'ai ensuite travaillé pour le Boston Consulting Group, qui est reconnu comme une des sociétés très prestigieuses en conseil, en direction générale d'entreprise. Et à un moment donné, voilà, j'ai eu le déclic que j'étais pas du tout à ma place, que en fait, j'aspirais à réellement faire bouger les choses dans ce monde, dans une direction plus éthique et plus écologique. et en même temps être vraiment plus au contact du réel et pas perché dans sa stratosphère. Et puis de fil en aiguille, je reviens à mes rêves d'enfant où en fait je voulais devenir prof. Je me suis dit, bah ouais, l'éducation c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et peu à peu tout ça, ça chemine en moi. Et à Paris, voilà, en plein cœur de la France, ça me parlait de créer une école tellement visible et qui rayonnerait tellement que, bah, en fait, en France, on se rendrait compte, ok, y a pas forcément, les programmes scolaires ne sont pas forcément incontournables, l'école n'est pas obligatoire, on peut faire complètement autrement et jouer toute la journée et tout ira bien. Ça, c'est le message que j'avais envie de transmettre en créant une telle école. Le concept existe déjà depuis 50 ans aux États-Unis, ça s'appelle Sudbury Valley School, dans le Massachusetts. Et nous, on est directement inspirés de ce qu'ils ont fait, et puis on fait la même chose ici. Le principe, donc, c'est une école sans beaucoup de choses, voilà, sans cours, sans prof, sans contraintes imposées aux enfants. Enfin, les enfants, en fait, ont le pouvoir total sur leur propre vie, pour faire leurs propres choix, non seulement sur les domaines qu'ils ont envie d'apprendre ou étudier, mais même surtout les choix qu'ils font dans leur vie, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, quand, où, avec qui. Et donc, ils peuvent jouer autant qu'ils veulent, ils peuvent converser avec les autres autant qu'ils veulent, et d'ailleurs, ils passent la plupart de leur temps à faire ça. C'est une sorte de déclaration d'indépendance de l'enfant.
Comment, toi, tu définirais les grands principes de cette école ?
Je dirais il y a la liberté. Parce qu'on est clairement libre de vivre et de faire ce qu'on veut. L'égalité, parce que qu'on soit enfant de 3 ans ou adulte de 40 ans, on a le même pouvoir et notre voix a le même impact. Et le respect, parce qu'on est principalement dans le respect des autres.
Comment ça se passe l'apprentissage ici ?
Ben, on apprend par nous-mêmes, donc c'est de l'apprentissage autonome. C'est-à-dire que tout vient de notre motivation à nous et de ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si moi je veux faire de l'histoire géo, en fait, je vais voir avec d'autres personnes autour de moi s'ils sont intéressés pour faire de l'histoire géo, et on va pouvoir créer un club histoire géo. Jamais personne va venir nous dire « fais ça » et « lis ça pour faire ça ». On peut ne pas apprendre par les cahiers comme, ou les livres comme on apprend dans le système classique. En fait, chacun apprend à son rythme et comme il a envie, quoi. Il n'y a pas d'examen obligatoire, mais on reste une école reconnue par l'État. Donc oui, on peut passer des examens en étant dans ces écoles. J'ai jamais appris autant qu'en 3 ans dans cette école, alors que j'ai passé 16 ans dans le système, 15-16 ans dans le système classique. Donc c'est cool d'être là.
Muriel Barra, on sent à travers votre documentaire que vous avez été bluffée par cette démarche qui, elle aussi, s'est multipliée. Hein, 40 écoles en France aujourd'hui.
Oui, Anne-Cécile, en fait, de réécouter en fait tous ces témoignages aussi depuis le début, là, je voudrais juste revenir, si vous me permettez, sur un point qui est important. Vous parliez tout à l'heure de déclic. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de sauter le pas et de passer vraiment concrètement à un mode de vie plus résilient ? Donc, on a entendu par certains de vos témoignages que cela peut être vraiment l'aboutissement dans le long cheminement intellectuel. Et puis, comme Patrick l'a aussi rappelé tout à l'heure, parfois, pour arriver à ce mode de vie-là, il faut être passé par un choc. Alors, ça peut être un burn-out, ça peut être tout d'un coup un choc face à un événement extérieur d'ordre économique, environnemental ou sanitaire. Et c'est précisément ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans cette crise sanitaire qui d'un coup nous met face aux limites d'un système qui ne fonctionne plus et qui fait que peut-être tout ce qu'on nous avait présenté comme étant un modèle de société qui nous apporte la sécurité, le confort, peut-être ça ne marche pas et peut-être c'est en fait on nous a raconté un petit peu des blagues. Et du coup, ça, c'est important pour moi parce que je reviens sur ce qu'on disait aussi au début, la force des histoires qu'on se raconte. On nous a, depuis des décennies, tous éduqués. On nous a parlé de cette croissance infinie. Il y avait tout un modèle d'éducation qui allait avec ça et qui nous permettait d'être des bons soldats aussi qui servaient ce modèle-là. Et on ne s'est pas vraiment posé de questions. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est urgent de changer de récit, il est urgent de raconter d'autres histoires, et c'est pour ça qu'on est là, nous les médias, pour raconter des histoires plus enviables, des histoires joyeuses, comme vous l'avez répété aussi vos invités, des histoires qui donnent envie et qui donnent la preuve qu'on peut apporter du sens à sa vie et être plus joyeux. Des médias comme vous, Anne-Cécile, encore bravo pour tout ce que vous faites, et donc voilà, de cette importance-là de raconter des nouvelles histoires. Et quand on est parent, on a aussi, je pense, aujourd'hui, parce qu'on est conscient en 2020 qu'on ne peut plus vivre de cette manière-là, on a le devoir de ne plus raconter les mêmes histoires que celles que nos parents nous ont racontées. Ça, c'est quelque chose de capital que j'essaye de dire partout autour de moi. On ne peut plus éduquer nos enfants de la même manière. Donc, il est important d'aller voir certainement du côté de ce que Ramine fait par l'intermédiaire de cette école-là, ou d'autres modèles d'éducation, en tous les cas, de ne plus donner à nos enfants le même objectif que ceux que nos parents nous ont donnés, qui ne sont pas des objectifs soutenables. Donc effectivement, le passage dans cette école a été quelque chose d'assez bouleversant, puisque d'ailleurs, ça n'a d'école que le nom, puisque c'est un lieu où les enfants apprennent comme ils le veulent, sont totalement libres. Et après, on peut penser ce qu'on veut de cette école-là. Elle a effectivement, comme vous l'avez dit, Anne-Cécile, cet exemple-là a été en 4 années multiplié 40 fois, hein, puisqu'il y a à peu près même plus de 40 écoles aujourd'hui sur le territoire, sur ce modèle-là. Donc, c'est bien la preuve aussi que grand nombre de parents, et de plus en plus nombreux, ne se reconnaissent plus dans le système de l'éducation nationale, qui est certainement très bien à plein d'égards, mais qui en tous les cas ne correspond plus à l'évolution d'un monde. Donc il est important de repenser l'éducation de nos enfants, c'est essentiel.
Alors j'aimerais que vous réagissiez les uns et les autres à ce que vient de dire Muriel, notamment en rapport avec la crise que nous traversons actuellement. Comment est-ce que vous la vivez, chacun d'entre vous, Patrick Baronnet ?
Alors, je dirais que il y a 40 ans, on se sentait confiné à Paris. Quelque part, je le dis très humblement, on a senti que ce mode de développement économique et social n'allait pas durer longtemps. Et c'est vraiment un déclic qui nous a fait quitter Paris. Et dès les années 76-80, on a essayé d'établir des fondements d'un autre type de société qui, qu'on le veuille ou non, devra aboutir. Mais ce qui est important, c'est que ce soit une décroissance choisie par les gens et non pas imposée par le système qu'il est en train de prévoir d'ailleurs. Donc là, il y a un grave problème, c'est la prise en main de nous tous par rapport à ce qui va suivre et non pas se laisser dicter à une forme de décroissance qui est encore un appauvrissement supplémentaire.
Parce que Mathieu Labonne, vous avez fait ce choix il y a 3 ans, vous le disiez, hein, vous êtes par téléphone de votre maison en paille sèche, dans votre éco-hameau où vous vivez avec 27 autres personnes. Pour vous, c'est une façon d'être plus résilient par rapport à cette crise sanitaire, mais surtout par rapport aux crises qui s'annoncent, parce que contre le dérèglement climatique ou la perte de la biodiversité, il n'y aura pas de vaccin.
Oui, c'est ça. Finalement, cette crise, elle est dramatique. Et c'est en même temps une opportunité, peut-être. Il y a d'autres crises, effectivement, qui se profilent. On ne sait pas quand, hein. Personne ne peut vraiment les prédire précisément. Mais en tout cas, je pense qu'il faut apprendre de cette occasion. Nous, donc, on a fait un peu le choix d'un confinement collectif, comme beaucoup d'autres lieux collectifs, où le confinement à l'échelle purement familiale est très compliqué, voire impossible, puisqu'il y a effectivement pas mal d'espaces communs ou de services communs, ce qui aussi demande un certain nombre de règles spécifiques qu'on respecte bien. Donc ça, évidemment, ça complexifie un peu les choses. On se retrouve pas, par exemple, pour faire du sport comme on fait d'habitude ou ce genre de choses. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on est quand même beaucoup, beaucoup moins impacté face à ces crises que beaucoup de gens, et notamment les personnes qui vivent en milieu urbain. On a presque parfois un peu honte d'avoir comme ça un mode de vie si agréable dans cette période de confinement, alors que d'autres ont des situations difficiles. Donc on se sent assez solidaire d'essayer d'accompagner aussi ces gens à prévoir un changement de mode de vie. Tout à l'heure, Patrick mentionnait le fait qu'il y avait plus d'1,5 million de Franciliens qui avaient quitté l'Île-de-France pour aller rejoindre des lieux à la campagne ou leur famille. Ça, pour nous, il va falloir essayer de l'organiser dans les prochains temps. Voilà, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de témoigner que oui, on est plus résilient dans ces situations. Oui, on est capable de s'organiser, on est capable de bien manger dans ces moments-là sans avoir besoin d'aller au supermarché. On n'a pas tellement anticipé par rapport à cette crise sanitaire. Faut pas. Aussi, je tiens à dire que ce n'est pas juste une réponse aux crises. C'est-à-dire que si c'est que par peur des crises, je ne suis pas sûr que ça marchera vraiment. Je pense qu'il faut aussi témoigner que ce mode de vie n'est pas juste plus résilient, il est aussi plus joyeux, plus convivial, on parlait tout à l'heure, et que finalement, ça répond beaucoup mieux à nos besoins humains, à des aspirations de beaucoup d'entre nous, d'avoir un meilleur cadre de vie pour ses enfants, de mieux manger, d'avoir plus de temps, de ralentir dans une société qui va souvent trop vite, et de le faire d'une façon très agréable. C'est-à-dire que ces modes de vie, aujourd'hui, il faut, comme disait Muriel Barra, les montrer, les raconter, puisque cet imaginaire d'un retour à la bougie ou de mode de vie qui serait très contraignant, il est très loin de la réalité. c'est des modes de vie qui sont très joyeux. Et c'est pour ça que des lieux comme la Maison Autonome ou comme les Coamo que j'ai fondés sont des lieux qui sont ultra demandés et ultra visités aujourd'hui. C'est qu'il y a une vraie présence de la société à créer ces modes de lieux, à les rejoindre, et il faut pouvoir accompagner ce mouvement.
Ousmane Pamé, vous aussi, hein, vous êtes confiné à Dakar. Comment est-ce que vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre?
Je crois que cette crise sanitaire mondiale est une opportunité vraiment pour qu'on puisse revoir un peu tout ce que nous sommes en train de faire, parce que voilà, on est en train de surexploiter la planète, de la rendre malade, on est en train donc de surexploiter les ressources du Sud, etc. Et nous nous rendons compte que ce système qu'on a fait miroiter à nos yeux, en fait, c'est un système appauvrissant et c'est un système qui met donc beaucoup de nos jeunes et de nos commerçants, de nos tisserands et en dehors donc des circuits de production. Nous, ce que nous voulons faire en ce moment, c'est redevenir maître donc de notre production agricole, de décider de ce que nous voulons manger, de ce que nous voulons produire et de comment le produire. Et en ce moment, nous sommes en train de réfléchir et de travailler pour créer un grand pôle donc d'éco-villages transfrontaliers au sud de la Mauritanie et au nord du Sénégal, c'est 50 villages de part et d'autre, parce que déjà ici, nous n'avons pas de problème donc de communauté ni donc de famille, les communautés sont assez solides, les familles également, et donc avec le réseau mauritanien donc des éco-villages et l'association donc de développement communautaire de Dogoudou, nous sommes en train donc de voir les succès communautaires donc dans les différents villages pour pouvoir inspirer le plus grand nombre de villages autour de nous. Et à terme, ce sera donc un grand pôle situé donc de part et d'autre du fleuve Sénégal. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées. Nous sommes en train donc de créer des forêts nourricières. Nous sommes en train donc de créer donc des centres de formation parce que nous sommes dans le Sahel. Peut-être que les conditions ne sont pas les mêmes ici. Les températures sont très fortes, les lacs sont en train de se dessécher, les fleuves sont en train de mourir, et donc les jeunes sont en train donc d'être forcés à l'exode et à l'immigration. Donc, en mettant en place donc des éco-villages, nous parvenons donc à créer donc des revenus durables, à partager donc ces richesses-là, et à donc à maintenir les jeunes donc dans les villages. Et ce qui est très intéressant aussi donc dans certains éco-villages du Sénégal, on note même un accroissement démographique parce que les gens quittent les villages pour les villes pour venir s'installer donc dans ces villages-là parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a de la solidarité, parce que les gens partagent tout. Et donc, voilà ce que nous sommes en train de faire parce que nous cherchons véritablement à opérer donc une rupture par rapport à ce développement, à ce modèle de développement qui nous a pillé les ressources, qui nous a... Donc, qui a complètement pillé et fragilisé donc nos modes de vie.
Reprendre son autonomie, on vous le disait au début de l'émission, hein, c'est un phénomène mondial. Merci à tous d'avoir participé à cette émission malgré les conditions virtuelles. Ce n'est pas très convivial, mais c'est efficace. Tous au téléphone, voilà, c'est une nouvelle manière de faire de la radio, mais ça fonctionne. Les liens vers vos organismes documentaires et éco-hameaux sont sur la page de l'émission. La série Un autre chemin de Muriel Barra est donc en DVD. Et Patrick Baronnet a publié un livre, 20 ans d'autonomie solidaire, à commander sur leur site heol2.org. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.